Voilà, cette semaine, et chaque année, c'est la même chose, les mêmes dates, du 18 au 25 janvier, c'est la semaine de prière pour l'unité du corps divisé, malheureusement, par le péché des chrétiens de l'Église. Et en même temps, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le dimanche de la parole, c'est-à-dire qu'on met en avant, non pas tant le livre de la parole que la parole elle-même, pour que, justement, ce soit la parole de Dieu qui crée l'unité, la désunion qui fait scandale. Et donc, il nous faut travailler à cette unité par le haut et non pas par un plus petit dénominateur commun. Et ce plus haut, c'est donc la parole qui est bien mise en valeur aujourd'hui de trois manières par les trois textes que nous recevons. Cette parole, on dit dans notre langage un peu parfois incompréhensible ou abscon, cette parole, elle est performative. Ça veut dire qu'elle est capable d'avoir de la performance, qu'elle est intelligente, qu'elle perfore les cœurs et les reins, qu'elle est efficace. Et cette performativité de la parole de Dieu, on en a un premier exemple dans le livre de Jonas. Ce tout petit conte biblique qui raconte d'une manière prophétique que ce monsieur, Jonas, rebelle dans sa chair et rebelle dans sa foi, refuse de remplir la mission que Dieu lui a donné d'aller à Ninive, qu'il s'en va en bateau, que le moment où il est dans le bateau, il y a une tempête, on le lâche par-dessus le bateau, on le largue dans la mer, et le bateau et la mer se calme, il est avalé par un poisson, il est rejeté, etc. C'est une histoire, un beau conte, qui veut signifier que même quand l'homme se rebelle contre la parole de Dieu est capable de le récupérer et de le transformer. Et Ninive, dont on vient de lire l'histoire, qui était une très grande ville, il la traverse très vite en annonçant la parole qui ne lui plaisait pas d'annoncer. Et les Ninivites, qui sont tous sauf des religieux, des hommes religieux, se convertissent. Donc, la parole de Dieu, elle est performative, mais elle n'est pas magique. Et donc, ce qui est annoncé symboliquement ici, parce que c'est un conte, va se trouver réellement mis en œuvre par la parole que Jésus va incarner en sa chair, le Verbe de Dieu fait chair, la parole de Dieu fait chair, et qui va annoncer à tous les Ninivites de la terre, qu'on appelle les païens, que l'élection d'Israël n'est pas une sélection de l'humanité, mais une prophétie qu'un jour Dieu parlera à toute la planète et pas simplement à un peuple. Et donc ces Ninivites sont la figure de ces païens qui se laisseront toucher par la parole. Dans la deuxième lecture qu'on a entendue de saint Paul, qui est un peu décalée toujours parce qu'on essaye de faire de la deuxième lecture de saint Paul une catéchèse un peu suivie, mais comme souvent on s'intéresse plus à l'Évangile, au moins le dimanche, qu'à saint Paul, on passe un peu à côté. Je vous lis juste une ou deux phrases. « Le temps est limité. » Que ceux qui pleurent fassent comme s'ils pleuraient pas, et puis cette phrase étonnante, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, que ceux qui ne possèdent rien fassent comme, que ceux qui font des achats fassent comme s'ils ne possédaient rien. La violence de ce propos, hein, surtout sur les femmes, doit se comprendre dans la perspective, justement, de cette performativité de la parole. C'est-à-dire que même si, et tous nous en avons besoin, de vivre, même si nous vivons tous des conditions de vie matérielles qui sont nécessaires et qui nous rendent heureux, qui nous rendent humains. Eh bien, tout cela, Paul nous dit, les temps sont courts, ça ne va pas durer. Convertissez-vous. Je veux, moi, mais je ne veux pas moi, Paul, mais moi, au nom de Seigneur Jésus-Christ, je veux que vous relativisiez tous vos bonheurs terrestres en les référant à la parole de Dieu qui est là et qui est là pour vous transformer. Relativisez votre vie à la mesure de l'absolu de la parole de Dieu. Et c'est un travail que tout chrétien doit faire, quel que soit son métier. Comment, à travers cette joie ou cette difficulté ou cette nécessité que je vis dans ma vie ordinaire, je peux laisser la parole de Dieu être performative. Donc je prends la parole, je prie la parole, je partage la parole et je me demande comment, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et c'est pas, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait toujours avec d'autres, en Église, pour que, justement, on ne fantasme pas sur sa propre capacité, sa propre capacité à tout comprendre seul de la parole de Dieu. Donc, mettez toute votre vie sous la lumière de la parole de Dieu. Et l'Évangile, je ne retiendrai que l'appel des quatre premiers apôtres, avec cette rapidité, cette fulgurance, d'ailleurs un peu comme les Ninivites, ils voient Jésus, ils entendent Jésus, ils suivent Jésus. Et ça, ça va un peu vite, même dans, surtout dans l'évangile de saint Marc, il n'y a pas de détails. Là aussi, cette rapidité, cette efficacité, si on la lit à un niveau 1, ça frise la secte. J'entends quelqu'un, je le suis. Pas de discernement. Il faut toujours l'entendre par le fait d'abord que ces quatre hommes, Pierre, André, Jacques et Jean, ce sont des juifs, 100% juifs. C'est-à-dire qu'ils sont déjà imbibés, imprimés de la parole de Dieu. Ils la connaissent par cœur. Et tout d'un coup, quand ce Messie les touche, là, ils disent, ce qu'ils entendent les touche de l'intérieur. Et révolutionne leur manière, enfin progressivement en tout cas, va révolutionner leur manière d'entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu illuminée par Jésus, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu non illuminée par Jésus. Et c'est cette parole du Seigneur qu'il nous faut faire entrer dans nos vies par notamment le fait de lire, de consommer, de manger, de prier la parole tous les jours, qui que l'on soit. Ça ne veut pas dire qu'on prend une demi-heure de prière, ça veut dire qu'on se nourrit. On nourrit son âme de la parole de Dieu pour éviter de s'auto-suffire ou de se penser génial. Cette parole qui fait que les apôtres, les quatre premiers, vont suivre Jésus, vont faire qu'ils vont entendre, vous êtes des pêcheurs marins et moi je vais vous faire devenir des pêcheurs d'hommes. Vous avez repéré que, peut-être que les plus anciens parmi vous qui lisaient souvent l'Évangile, vous l'avez repéré, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Il y a un devenir, il y a une catéchèse, il y a un temps. Il y a une histoire, il y a une transformation progressive. Eux, ils sont marins, pêcheurs par profession, et ils doivent devenir dans un ministère pêcheurs d'hommes. Donc la grande différence, c'est que quand ils prennent des poissons, c'est pour les faire mourir et les manger, tandis que quand ils vont prendre des hommes, c'est pour les sortir de la mort et leur donner la vie de Dieu. Et ça s'apprend, devenir enfant de Dieu, devenir frère de Jésus-Christ, devenir disciple du Seigneur, se laisser transformer par ce compagnonnage normal. Ce qui n'est pas normal pour un chrétien, c'est que la parole de Dieu ne soit pas quotidiennement dans sa vie, ce compagnonnage normal avec la parole. Et il va les choisir deux fois deux frères, Pierre-André, Jacques-Jean. Après, il va en choisir huit autres qu'il fera fonctionner aussi en binôme, même si ce ne sont pas des frères, pour signifier la mission du chrétien et la mission de l'Église. Un, on n'est jamais seul, même si on est seul. On est toujours deux par deux, ou symboliquement deux par deux, parce qu'on a besoin l'un de l'autre. On n'est pas autosuffisant. Et donc, qu'on soit frère ou pas frère de chair, Jésus envoie toujours ses apôtres deux par deux. C'est comme s'il voulait guérir la fraternité en échec du Premier Testament, avec Caïn qui tue son frère Abel, avec Isaac qui s'entend pas du tout avec Ismaël, avec Ésaü qui est en conflit avec Jacob. Les frères dans l'Ancien Testament sont souvent en guerre, en bataille. Il veut créer une autre type de fraternité nouvelle basée sur sa parole. Bien que le Seigneur nous donne en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens et non pas l'unité de l'Église, parce que l'Église elle est déjà une, puisque le Seigneur a prié pour que nous soyons un, mais notre péché a divisé cette Église une, que cette prière pour l'unité du corps du Christ soit inspirée non pas simplement par des sentiments affectueux ou affectifs, plus ou moins intéressés, mais vraiment par la performance que doit avoir en nous cette puissante parole de Dieu, d'autant plus que nous, les catholiques, par rapport aux autres églises non catholiques, par rapport aux protestants, nous sommes ceux qui confessons, qui croyons, qui communions à la parole de Dieu faite chair dans l'Eucharistie. Amen.